Chapitre 14, 22 décembre, 9h. Je craignais de passer une mauvaise nuit faute de pouvoir bouger à mon aise, mais c'est tout le contraire qui s'est produit. J'ai dormi comme un bébé. Comme quoi ce n'est pas si difficile de dormir dans un lit à côté d'un gars gaulé comme un de ces types qui posent dans le calendrier des dieux du stade. J'ouvre les yeux et réalise avec effroi que je suis tournée vers David, la jambe droite à moitié repliée sur lui, jambe sur laquelle repose par ailleurs son bras. Une conclusion s'impose, même dans mon sommeil, je suis incapable de me tenir. David lui aussi se réveille et forcément, son regard se pose sur ma jambe et sur son bras. Un sourire amusé éclaire son visage. « Ce n'était pas prévu au programme du jour, » me dit-il, « mais jamais la première fois dans un lit. » Rétorquai-je du tac au tac, histoire de masquer le trouble qui m'a pourtant envahi au contact de sa main sur ma cuisse. « Tu me connais, je préfère les endroits moins conventionnels. » Suis-je bête? À quoi bon le moelleux d'un matelas quand on peut avoir la rugosité du béton? Heureusement, il y a également plein de murs dans cette pièce, ajoute-t-il avec un clin d'œil. Puis il enlève sa main de ma jambe, se lève et se dirige vers la fenêtre pour actionner l'ouverture automatique des volets. Alors que petit à petit la pièce s'inonde de lumière, il s'étire. N'allez pas croire que je le mate, pas du tout. Je ne fais juste que, disons, regardez. Comme on observerait un chat qui étire ses pattes en mode fille détachée, quoi. Il a les épaules larges et le dos musclé. Certaines aiment les fesses, moi je préfère le dos. Un homme avec un dos bien dessiné, c'est plein de promesses. Avant de commencer à considérer que je pourrais faire mon affaire d'un bout de sol sans moquette, je me lève à mon tour et file dans la salle de bain pour prendre une bonne douche. Froide, la douche. Il est 9h30 lorsque nous descendons rejoindre le reste de la famille. Je ne peux m'empêcher de m'arrêter quelques minutes pour contempler la vue fantastique qu'offrent les baies vitrées. Le soleil irradie les montagnes enneigées. Le ciel est d'un bleu digne d'une pleine journée d'été. Les effluves qui proviennent de la cuisine sont divins et finissent par me sortir de ma contemplation. Comme pour le repas d'hier, Hélène et son amie Valérie s'activent tout en papotant. Je m'assois à côté de David, à l'immense table en bois qui trône au milieu de la pièce. Elle est déjà chargée de victuailles. Brioches, croissants, pains au chocolat, crêpes, mais aussi salade de fruits, fromage blanc, granola, fromage, charcuterie. « Les saucisses et les œufs brouillés seront prêts d'ici 2 minutes », annonce Hélène. « J'imagine que vous devez avoir faim », dit-elle à mon intention, non sans le fameux clin d'œil. L'exercice, ça creuse. Deuxième clin d'œil. Oui, juste pour le cas où j'aurais loupé le premier. David, qui étale une généreuse couche de confiture de rhubarbe sur une tranche de brioche non moins épaisse, fait celui qui n'a rien entendu. Madeleine, elle, éclate de rire. Maman, laisse-les tranquilles tous les deux. Regarde, Pauline est rouge comme une tomate. Ce qui, évidemment, a pour effet de renforcer le cramoisi de mes joues. Je n'ai rien dit! S'offusque Hélène, tout en déposant devant chacun d'entre nous une assiette pleine d'œufs brouillés sur lesquels sont disposées 3 petites saucisses visiblement croustillantes. Un gargouillis sonore se fait alors entendre. En provenance de mon estomac. « Eh bien, c'est le Grinch qui gronde comme ça ?» demande Donovan alors qu'il vient d'arriver dans la cuisine à son tour. « Non, c'est l'estomac de Pauline. » réplique Madeleine, tout en enfournant un énorme morceau de crêpe dans sa bouche. « Elle est affamée après la nuit qu'elle a passée avec notre frère », poursuit-elle en continuant de dévorer ce qui se trouve devant elle. « Je ne te connaissais pas une telle fougue sexuelle, mon cher frangin », raille Donovan à l'intention de David. « Tu te sens menacé ?» réplique celui-ci sans l'ombre d'un sourire. « Apparemment, tout le monde a oublié que je suis présente. » Tiens, et si je prenais un peu de fromage blanc plutôt? Oui, c'est bon, du fromage blanc, c'est frais, ça se mange tout seul. Mangez et surtout ne croisez le regard de personne. Vous n'allez pas commencer dès le petit déjeuner, tous les deux. Ce n'est pas si souvent que nous sommes tous réunis ici. Et pour une fois que David est accompagné, tu pourrais te réjouir pour ton frère. Allez, viens t'asseoir et mange. Heureusement, Donovan ne trouve rien à répondre à sa mère et s'assied. Maman, c'est délicieux. Poursuit Madeleine comme si de rien n'était. « Quand j'aurai accouché et que je serai une loque humaine faute de nuit décente, promets-moi que tu viendras me cuisiner des omelettes. » J'espère que vous avez une assurance vie, demande aussitôt Ludovic. Parce que privée de sommeil, sachez que votre fille devient violente. Attends de voir ce que ce sera en salle d'accouchement. Il n'est pas exclu que je cherche à te tuer si jamais j'ai trop mal. Parce que bien entendu, à ce moment-là, cet enfant sera entièrement de ta faute. Je souris, bien trop heureuse que le sujet de mes prouesses sexuelles avec David ne soit plus tendance. Le petit déjeuner se poursuit ainsi pendant près d'une heure, ponctué des potins racontés par Hélène et par l'humour de Madeleine et Ludovic. David et Donovan, eux, sont restés quasiment silencieux. « Ce n'est pas tout ça, mais il est temps de se préparer pour la course !» lance Hélène en se levant. « Nous avons un titre à défendre !» Il existe un tas de courses. Des courses de chevaux, des courses à pied, des courses d'orientation, en passant par les courses au supermarché. Néanmoins, emmitouflé dans une combinaison de ski vert fluo gentiment prêtée par Madeleine, c'est bien à une course de luge que je m'apprête à participer. En bas de la piste qui me paraît vertigineuse, mon bolide à la main au bout d'une corde, je n'emmène pas large. Est-ce que c'est maintenant que je dois annoncer que j'ai peur de tout ce qui va vite? Notez que je n'ai pas eu peur d'Hervé alors qu'en termes de rapidité, il se posait là. Mais là n'est pas le sujet, je vous l'accorde. D'après ce que j'ai compris, il s'agit d'une course individuelle. Chacun ses fesses sur son engin de mort en plastique. 3, 2, 1, glissez. Ou plus probablement décédé en ce qui me concerne. L'année dernière, David, Madeleine et Donovan ont remporté, et dans cet ordre, les trois premières places. « Je sens que cette année, on va assister à la revanche des femmes », affirme Valérie. « N'est-ce pas, Hélène? Montrons-leur à ces petits jeunes de quel bois on chauffe. David, la fin de ton règne a sonné. » « Avec plaisir », répond ce dernier. D'autant que cette année, je ne participe pas. C'est Pauline qui va défendre les couleurs de notre couple. N'est-ce pas, ma chérie? Me lance-t-il avec une légère hésitation sur le mot doux. Lorsque je me préparais dans la chambre tout à l'heure, j'ai essayé de me soustraire à l'exercice, mais David m'a rappelé le service que j'ai accepté de lui rendre. Je suis là pour lui épargner de participer cette année à toutes les activités familiales. Et puis, enchaîne-t-il. Il faut bien que quelqu'un reste avec Maddy, au cas où elle déciderait d'enfanter son monstre à poils verts directement sur la neige. Sache que le monstre t'entend quand tu parles. Ne viens pas te plaindre s'il te fait pipi dessus la première fois que tu lui changeras sa couche. Tu seras aux premières loges pour assister à ma victoire comme ça, frangin, fanfaronne Donovan. Je crois très fort en ma partenaire. Elle va pulvériser le record de vitesse. Jusqu'ici, mes seuls faits d'armes en matière de pulvérisation se limitent à la bombe insecticide, ce qui ne sera pas aujourd'hui d'une grande utilité, je le crains. Mais sinon, quand on parle de record de vitesse, c'est dans quel sens? Est-ce qu'il y a un record pour ceux qui vont le moins vite et qui arrivent en bas les derniers? Non, parce que ça pourrait m'intéresser. Je n'ai pas le temps de formuler cette interrogation à voix haute que Donovan passe son bras sous le mien et m'entraîne vers le sommet de la piste. « Alors comme ça, tu es une championne de luge ?»« Pas vraiment », avouai-je, préférant sur ce coup jouer la carte de l'honnêteté. « C'est même la première fois que je vais monter sur une luge pour tout te dire. David s'emballe un peu. »« Ça ne m'étonne pas de lui. Est-ce que tu veux que je te montre comment on pilote ?» On peut s'entraîner sur une petite portion de piste. Tu pourras t'installer entre mes jambes pour avoir de meilleures sensations ensuite. Oui, pourquoi pas. C'est gentil à toi. Je ne termine pas ma phrase, interrompue par un David qui court vers nous, en tirant derrière lui une luge qu'il a sans doute empruntée. Finalement, j'ai décidé de participer. Et moi alors? Tout le monde se fiche du risque que j'accouche dans la neige, si je comprends bien? Crie Madeleine pour se faire entendre. Ah, elle est belle, la famille! Je suis prête à saisir l'occasion d'abandonner la compétition, mais David m'attrape le bras pour m'en empêcher. Tu vas voir, c'est sympa, me dit-il. Décidément, il faudra vraiment que je lui apprenne à employer le mot sympa à bon escient. 15 minutes plus tard, essoufflé comme un bœuf de 10 tonnes qui a repris 3 fois de la raclette, je suis en haut de la piste, assise dans ma luge, les pieds bien calés et les mains crispées sur les manettes. Avec un peu de chance, mes fesses seront trop lourdes et je resterai là, bloquée tout en haut, pensai-je soudain. Ragaillardi par cette perspective, je déchante hélas quelques secondes plus tard en réalisant que des personnes réquisitionnées par la ville pour l'organisation de cet événement mondain et probablement mal intentionnées vont nous pousser afin de nous aider à prendre de l'élan. Misère. Alors que David m'adresse un grand sourire d'encouragement et que j'ai envie de lui balancer un coup de pelle, les choses s'enchaînent très rapidement. Un type en redingote noire par-dessus sa combinaison de ski fluo, cela va de soi, tire un coup de feu pour signifier le départ de la course. Je me sens propulsée en avant grâce au type derrière moi qui doit certainement penser qu'il joue sa vie sur cet élan. Ma luge prend immédiatement de la vitesse, au point que j'ai l'impression qu'elle va se désintégrer sous moi. J'hésite sur l'attitude à adopter. Fermer les yeux pour ne pas voir la mort venir ou hurler de terreur. Je choisis la seconde option et telle une Josiane Balasco sur ses skis, je m'époumonne. « Ça va trop vite !» Il faut croire que non, si j'en crois les courants d'air générés par les concurrents qui me dépassent et qui prennent rapidement de l'avance suivant la courbe de la piste. Une courbe. Comment ça ? Une courbe. Je n'ai pas vraiment le temps de me pencher sur cette histoire, car à mon grand désespoir, je vois s'éloigner la dite courbure de mon champ de vision, remplacée par le mur de neige vers lequel ma luge se dirige tout droit. Dans un réflexe de survie, je tire sur les manettes de toutes mes forces, ce qui arrête la luge quasi instantanément. La luge, oui. Mais mon corps, non. En raison d'une obscure loi de la physique dont tout le monde se fiche en temps normal et que personne n'est capable de réciter, je me retrouve propulsée en avant, les bras écartés, avant de m'encastrer tel un ange vertical dans le mur de neige. Figure artistique s'il en est, qui cependant sonne la fin de ma prometteuse carrière de lugeuse. Plutôt manger des blattes vivantes que de remonter sur cet engin. Peut-être pas vivante. Et pas non plus des blattes. Enfin bref, plus jamais de luge, ça c'est sûr.